piscine, tu passes ton eau, aquapark, point ferme. Les lieux récréatifs incluant les stations de ski, les mégaparks, les centres de trampoline.
Malheureusement, on a un premier décès au Québec. C'est une personne âgée.
Prends l'air, tout petit peu, marche au soleil. C'est bon pour la santé.
Et là, c'est important. On n'organise pas de rassemblement, pas de party. De toute façon, moi, quand j'en organise, je t'avoue qu'il y avait moins.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce troisième et dernier épisode de Contrat tout attente, un balado sur les contrats en temps de pandémie. Julie Paquin avec vous, accompagnée de Jérémy Torres-Sey. Bonjour Jérémy.
Bonjour Julie.
Alors, dans le premier épisode, Jérémy, on a vu dans quel cas la pandémie peut constituer un cas de force majeure qui permettrait aux contractants de se dégager de leurs obligations. Et on a vu qu'en général, si une obligation est impossible à remplir, le débiteur n'est pas obligé de l'exécuter, mais il doit rembourser l'autre partie. Sauf qu'on s'entend que ce n'est pas nécessairement la solution préférée des débiteurs. On a vu, par exemple, toujours dans le premier épisode, le cas des compagnies aériennes qui voulaient offrir des crédits voyage plutôt que des remboursements. Mais on peut aussi penser au cas des nombreux gyms ou autres centres qui ont offert plutôt à leurs clients de prolonger leurs abonnements au lieu de les rembourser, ou encore qui ont changé des modalités de fourniture des services, par exemple en offrant leurs cours de danse ou de Zumba ou de yoga en ligne plutôt que sur place. Qu'est-ce que ce genre de modification-là représente au plan juridique?
En fait, Julie, la question de la possibilité de modifier les contrats est assez délicate. Parce qu'on revient ici à quelque chose qu'on a déjà vu dans le premier épisode, le fameux pacta sunt servanda. Le code, dans cette situation, fixe certaines balises.
Article 1439. Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties.
Les mots importants dans cette disposition sont « le contrat ne peut ». Parce qu'il faut bien comprendre que la formulation qui est utilisée par le législateur ici est essentiellement restrictive. Cette formulation restrictive, eh bien, elle renvoie à une notion importante en droit des contrats, c'est l'intangibilité du contrat.
Donc, le principe, c'est que le contrat est intangible ou immuable, sauf si la loi permet sa modification, évidemment, ou encore si les parties sont d'accord, toutes les deux, pour le modifier. Donc, on retombe sur le principe de la liberté contractuelle.
Évidemment, ça va de soi que si les parties s'entendent, elles peuvent modifier leur contrat. À titre personnel, je crois d'ailleurs qu'il s'agit de la solution à encourager dans cette situation, puisque c'est certainement la solution qui permettra de refléter le plus justement la volonté des parties.
Petite précision ici, quand on parle de modification dans ce contexte-là, sur une modification par accord des parties, on parle en fait de la conclusion d'un nouvel accord, donc d'un nouveau contrat qui va avoir pour effet de modifier l'entente initiale.
Effectivement, l'entente modificative, qu'on appelle généralement un avenant, est un contrat en elle-même. Cette entente modificative, elle doit respecter les règles de formation du contrat. Cela étant, un certain courant doctrinal soutient que dans certaines circonstances, cette modification pourrait résulter du comportement convergent des parties. Par exemple, on pourrait imaginer l'hypothèse dans laquelle un contractant ne réclame jamais l'exécution d'un des droits qu'il tient du contrat et son co-contractant ne l'exécute pas non plus. Dans cette hypothèse, le juge pourra éventuellement considérer que le contrat a été modifié du fait du comportement convergent des parties. Et peut-être que cette hypothèse sera observée dans le cadre de la pandémie. Autrement dit, on observera une certaine souplesse dans les rapports contractuels.
Mais il y a aussi un autre mécanisme de modification qu'on trouve relativement souvent dans les contrats, c'est le fait de prévoir dès le départ, donc dans le contrat initial, le premier accord entre les parties, on va prévoir des clauses qui vont permettre certaines modifications à certaines conditions. Ces clauses modificatrices-là, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle mesure elles vont être considérées comme valides?
C'est là que la question de la modification va devenir plus complexe. En droit commun, les clauses de modification unilatérale du contrat sont en principe valides. L'exemple typique, et qui est bien utile dans la situation, est celui de la clause de variation automatique du prix en fonction d'un indice, le prix du pétrole par exemple.
On voit aussi des clauses, par exemple, permettant d'ajuster les prix des baux en cours de location, par exemple. Je pense à un autre exemple, celui des clauses toujours dans les baux commerciaux. ces clauses qui prévoient le prolongement de la durée du bail pour une période supplémentaire, souvent à la discrétion du locataire, donc ce qu'on appelle parfois une option de renouvellement ou une option de prolongation. C'est aussi quelque chose qui est permis.
Évidemment. Cela étant, il faut sérieusement nuancer le principe. Toutes les clauses modificatives ne sont pas admises. Et la jurisprudence exige que l'objet de l'obligation demeure déterminable. Déterminable au sens de l'article 1373, alinéa 2 du Code civil.
Alinéa qui veut dire essentiellement que les parties doivent pouvoir savoir à quoi elles s'engagent au moment de contracter. Donc, par exemple, si on conclut un contrat en janvier, on peut décider de s'entendre sur un prix qui n'est pas fixé en janvier, mais qui va être fixé en juin au moment où il va devenir payable, suivant une méthode quelconque. Par exemple, en fonction de l'inflation ou du cours de la bourse à la date X, etc. Mais on ne pourra pas décider que le prix va être fixé en juin par une des parties à sa guise.
Oui, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on observe une certaine sévérité des juges à l'égard de ces clauses de modification unilatérale qui accorderaient un trop grand pouvoir à l'une des parties. Et j'imagine que cette sévérité va être maintenue dans le cadre de la pandémie parce que finalement, l'idée, c'est qu'un contractant ne peut pas s'accorder le droit de modifier des éléments qui étaient déterminants du consentement des parties.
Éléments qui, évidemment, risquent de varier d'un contrat à l'autre. Maintenant, si on quitte le droit commun des contrats pour entrer plutôt dans le droit de la consommation, on voit que la situation est un petit peu différente parce que dans la LPC, le législateur a choisi d'encadrer les clauses de modification en fixant des critères de validité. Donc, à l'article 11.2, on va mentionner que les clauses de modification ne peuvent pas servir à modifier la nature, le prix du bien ou du service et la durée du contrat, à moins qu'on soit dans un contrat de service à durée indéterminée où, effectivement, on peut penser qu'on aura besoin de faire des modifications plus importantes parce qu'on ne sait pas combien de temps le contrat va rester en vigueur. Toujours à l'article 11.2, on dit que le consommateur va toujours avoir le droit de refuser une modification qui est faite en fonction d'une clause de modification et de choisir plutôt de mettre fin au contrat sans frais ni pénalité. Donc, il demeure l'arbitre final de l'acceptation ou non de la modification. Donc, si un commerçant veut faire une modification à la durée, au prix ou à la nature du bien, il ne peut pas s'appuyer sur une clause de modification. Ce sont des modifications importantes et il va falloir qu'il obtienne l'accord du consommateur à chaque fois. Et si le consommateur n'est pas d'accord, mais il va tout simplement pouvoir demander le remboursement à la fin du contrat.
Ça amène sur une autre question qui est à considérer, qui est celle de la modification dans le mode de livraison des services, en offrant aux gens, par exemple, de suivre leurs cours en ligne plutôt que sur place, en présence d'un professeur. C'est une solution qui permet aux fournisseurs de dire « Bien, moi, je n'ai pas besoin de restituer quoi que ce soit parce que ma prestation n'est pas impossible à rendre puisque je la rends. »
On est dans des cas où il faut se demander est-ce qu'on est en présence d'un changement qui constitue juridiquement ce qu'on croirait être une modification du contrat. Parce que, évidemment, on peut concevoir que dans la vie réelle d'un contrat, il va se passer des choses, il va y avoir des changements qui vont être faits à l'entente initiale, mais qui ne seront pas nécessairement réellement des modifications. Comme par exemple, si je prends mon cours de yoga avec Vanessa, et qu'en milieu de session, Vanessa est remplacée par Jerry. Bon, oui, c'est un changement à ce que je reçois comme prestation, mais le cours se donne quand même. Donc, est-ce qu'on est en présence d'une modification du contrat? Probablement pas. Qu'en est-il lorsqu'on passe, par exemple, au lieu de changer de professeur, on change de mode de livraison. Donc, on passe d'un cours qui se donne sur place et on s'en va dans mon salon devant mon téléviseur. Est-ce qu'il faut l'accord du consommateur dans ces cas-là? Est-ce que le consommateur peut refuser et exiger un remboursement s'il n'est pas d'accord de s'entraîner dans son salon? Bien, la réponse va vraisemblablement varier selon les circonstances de chaque cas.
Maître Élise Thériault, d'Options consommateurs.
Ça va être une autre belle question pour les juges parce que c'est vrai que le service est rendu, mais est-ce qu'il vaut la même chose que le service rendu en groupe dans le studio de santé ou peu importe. donne un exemple. Moi, si je fais du yoga seul, que je le fasse devant ma télé ou devant mon ordi ou en studio, à moins que j'aille là pour rencontrer des gens, ce qui ne fait pas partie de l'obligation du studio de santé, ça ne change pas grand-chose. Mais si j'inscris mon enfant de 4 ans à un cours de danse, est-ce que lui va suivre aussi bien devant l'ordi que devant le prof? Si je me suis inscrite, moi, à un cours de tango avec mon conjoint, est-ce que le professeur peut répondre à mes questions? Peut-il corriger ma posture aussi bien que si j'étais devant lui? Il y a plein de questions qui se posent. Il y a certains cours, si je fais des cours de swing, une chose qu'on fait en swing, c'est qu'on change de partenaire. Souvent, ça fait partie de la danse de changer de partenaire. Là, si moi, je me suis inscrite à ces cours-là seule, que je n'ai pas de partenaire de danse à la maison, je fais comment? Donc, est-ce que cette prestation-là, elle est rendue? Parce que ce que ça dit, les dispositions du Code civil sur la force majeure, c'est si le commerçant ou le contractant est empêché par la force majeure de livrer sa prestation, il y a lieu à restitution. Maintenant, ils vont dire, bien, je ne suis pas empêché de livrer ma prestation, je la livre sur Internet. Est-ce que c'est la prestation que j'ai achetée? Est-ce que c'est équivalent? C'est toutes des questions que les juges vont devoir se poser pour savoir est-ce qu'il doit y avoir restitution? Toutes des belles questions auxquelles on n'a pas les réponses.
Julie, on voit la situation est complexe pour les parties au titre de la modification du contrat. Je crois que la situation est d'autant plus complexe que les parties ne peuvent pas s'en remettre au juge pour les secourir, puisque de manière classique, le juge ne peut pas intervenir dans le contrat pour en modifier les termes a posteriori en se fondant sur un changement dans les circonstances.
Ouais, c'est le refus classique de ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision en droit civil.
Exactement, Julie. C'est une question qui me passionne, mais le droit québécois n'admet pas la théorie de l'imprévision. En conséquence, le juge ne peut pas intervenir dans le contrat pour apporter des tempéraments à la rigueur de ce contrat, malgré l'évolution de la situation causée par la pandémie.
Jérémy, pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer plus précisément en quoi ça consiste, cette fameuse théorie de l'imprévision?
Oui. La théorie de l'imprévision, c'est une vieille question du droit civil qui revient sur le devant de la scène à intervalles assez réguliers. L'idée derrière cette théorie de l'imprévision, c'est que les contrats sont toujours conclus sur la base des circonstances qui prévalaient lors de leur conclusion. En conséquence, ils devraient être modifiés si les circonstances changent. Dans cette perspective, on a défendu en doctrine l'idée selon laquelle les contrats contiendraient tous une clause implicite, une clause nommée la clause sic rebus stantibus, littéralement les choses restant les mêmes.
Donc, l'idée selon laquelle on contracte en présumant que la situation dans l'avenir va être relativement semblable à celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce qui semble assez logique. Et quand on parle d'une pandémie, bien, c'est quand même un changement de circonstances assez important qui vient bouleverser beaucoup de contrats.
Oui, et puis on peut prendre un exemple assez simple. Sur les chantiers de construction, les mesures sanitaires peuvent conduire à une augmentation très importante des coûts. L'achat d'équipements de protection, la rotation du personnel, l'allongement de la durée des travaux vont modifier l'équilibre du contrat. Et peut-être que dans certains cas, l'équilibre du contrat va être modifié au point que l'entrepreneur ne puisse plus retirer de bénéfices de ce contrat-là.
Sans pour autant pouvoir se prévaloir de cette notion de force majeure qu'on a étudiée, parce que la prestation demeure possible, mais beaucoup plus coûteuse. Donc, si la théorie de l'imprévision était admise en droit québécois, qu'est-ce que ça viendrait concrètement changer pour les contractants, par exemple, dans cet exemple du chantier de construction?
Eh bien, en temps de pandémie, c'est assez simple. La théorie de l'imprévision ouvrirait la porte à l'intervention du juge dans les contrats en cours. Cette intervention pourrait permettre au juge de rétablir un équilibre qui aurait été supposément rompu par la pandémie. Et ainsi, notre entrepreneur pourrait obtenir soit un meilleur prix pour son contrat, soit une adaptation en réalité des conditions de ce contrat. Mais pour l'instant, la porte est totalement fermée.
Et donc, l'imprévision, c'est un concept qui va permettre finalement de répartir un peu mieux les risques ou les conséquences des événements imprévus sur les parties plutôt que de les faire porter sur une seule des parties. C'est un concept qui semble intéressant, au moins du point de vue de la recherche d'une meilleure justice contractuelle. Par contre, comme tu l'as dit, ce n'est pas possible de l'invoquer au Québec actuellement. Ce ne fait pas partie de notre droit positif québécois. Et c'est d'ailleurs ce que la Cour suprême a confirmé récemment en 2018 dans le fameux arrêt Churchill Falls. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agissait au juste dans cet arrêt-là?
Oui, Dans cette affaire, était en cause un contrat qui est intervenu entre Hydro-Québec et une entreprise nommée Churchill Falls dans les années 1960. Très, très grossièrement, en vertu de ce contrat, Hydro-Québec s'engageait à construire un barrage pour Churchill. En contrepartie, Churchill vendait de l'électricité produite à Hydro-Québec à un prix convenu par avance. Ce qui devait arriver arriva, le prix de l'électricité s'envole et le contrat devient très, très, très avantageux pour Hydro-Québec au détriment de Churchill. Attention, ici, il faut bien comprendre que personne ne perd de l'argent. La survie économique des parties n'est pas du tout en cause. Bref, le problème, c'est que le contrat n'est pas aussi rentable qu'il aurait pu l'être pour Churchill. Et dans ces circonstances, Churchill va se lancer dans une espèce de bataille judiciaire assez épique qui dure depuis près de 30 ans maintenant. Dans ce dossier, sans le dire directement, Churchill a essayé de plaider l'imprévision. Et il faut bien dire qu'ils se sont fait très sévèrement rabrouer par le juge Gascon au nom de la majorité, au motif précisément que le droit québécois n'admet pas cette théorie.
Oui, d'ailleurs, la décision de la Cour suprême dans Churchill Falls a suscité beaucoup de réactions chez les civilistes, y compris toi. Civilistes qui se sont demandé notamment si cette décision-là avait définitivement fermé la porte à l'imprévision au Québec. Alors, pour en discuter, discuter de cet avenir de l'imprévision au Québec, on s'est entretenu avec notre collègue, le professeur André Bélanger de l'Université Laval.
Bonjour André, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Alors, retour à l'imprévision finalement. Pour être honnête avec toi, André, je dois avouer que j'étais de ceux qui pensaient que le débat était clos par la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Churchill Falls. Dans une autre vie, j'ai écrit un court texte sur la décision intitulé « Churchill Falls, la Cour suprême nous rappelle qu'un contrat est un contrat ». On a beaucoup parlé du classicisme de cette décision. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Complètement à l'inverse de toi, cher Jérémy. Je ne crois pas que ça avait clos le débat sur l'imprévision parce que je considère que ce n'est pas une très, très bonne décision. Je considère que les coins avaient été tournés passablement ronds par le juge Gascon. Effectivement, il y avait quelque chose de très classique, mais ce n'est pas tant le classicisme. Moi, ce qui m'a, je dirais, déçu dans cette décision de la Cour suprême dont j'attendais beaucoup, c'est justement la facilité avec laquelle la majorité a écarté des arguments importants. Et il y a comme quelque chose de fondamental ici sur lequel on n'a pas beaucoup voulu élaborer, trop peu à mon avis. C'est le fait que généralement et effectivement de manière classique, l'imprévision va s'appliquer lorsqu'une partie va devoir faire face à des obligations qui sont beaucoup plus importantes. Alors que dans Churchill Falls, on sait que c'était l'inverse, c'était donc le déséquilibre par rapport au profit versus le manque à gagner en raison de la transformation du marché de l'électricité que subissait l'autre partie. Je trouve ça un peu facile, honnêtement, parce que la Cour suprême sait très bien que ce genre de décisions sont extrêmement rares dans le contexte civiliste canadien et que cette question de l'imprévision est importante, ne serait-ce que parce qu'elle est admise en droit civil français et que veut pas, le droit civil français a encore une grande influence sur le développement de notre droit civil, ne serait-ce que tout le discours juridique qui se fait. Et comme cette admission s'est faite en 2016 et que tout s'est nommé, là, mais que ça a commencé par le droit allemand, et le droit tunisien, italien, bon, on les nommerait pas tous, mais le droit québécois, en n'admettant pas l'imprévision de 1994 dans le Code civil, faisait en quelque sorte cavalier seul. Et là, je dois dire que cette position ferme de la majorité de la Cour suprême m'a beaucoup surpris. Honnêtement, il me semble qu'il y aurait eu matière à davantage de nuances et à tout le moins de bien préciser qu'on était dans un contexte éminemment politique, extrêmement délicat, exceptionnel en matière de contrat, et qu'à ce titre-là, il fallait pas voir ça comme une décision de principe en la matière. Et qu'il pouvait y avoir éventuellement appel à ajustement. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce n'est pas une décision que j'apprécie du tout, du tout, du tout. Non pas en raison de la décision qui est rendue, mais en raison du manque, à mon avis, d'approfondissement dans l'argumentation. Et là, évidemment, la COVID vient peut-être éventuellement ouvrir la porte à des remises en question, des principes qui sont soulevés ou qui sont effleurés même, je dirais, par la majorité dans cette décision.
Je comprends que tu n'es peut-être pas un fervent supporter de cette décision. Cela étant, j'ai toujours été persuadé, et je le suis encore, qu'il ne s'agissait pas de la bonne affaire pour porter la question de l'imprévision. Alors tu l'as évoqué également, mais j'aimerais t'entendre un peu plus parce que finalement, on peut se demander si ce n'est pas ça le fond du problème ici.
c'est l'argument principal du juge Gascon pour évacuer la question donc autour de l'admission des prévisions de droit québécois. Mais à mon avis, et là, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, c'est que le fait d'écarter l'imprévision et de mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas effectivement la bonne décision pour discuter de l'imprévision parce que c'est un manque à gagner, en fait, qu'on invoque, et non pas une augmentation liée à l'exécution de nos obligations contractuelles, ouvre la porte à d'autres belles grandes réflexions par rapport à ce qu'est la bonne foi. Donc, le fait que les profits soient littéralement faramineux pour l'une des parties, Hydro-Québec, crée un déséquilibre, peu importe l'angle sous lequel on le prend. Et là, la question, c'est de se demander dans quelle mesure est-ce que le co-contractant qui voit ainsi les profits qu'il fait au détriment, parce que c'est le cas, là, de son vis-à-vis contractuel, peut être considéré être de bonne foi. Autrement dit, dans quelle mesure est-ce que la notion de profitabilité d'une relation contractuelle vient pas atteindre une espèce de point de rupture à un certain moment par rapport à cette notion de bonne foi? Donc, est-ce que, pour le dire autrement, pour essayer d'être plus clair, est-ce qu'une partie peut, tout en étant de bonne foi, profiter de façon démesurée et imprévue, donc en dehors d'un cadre strictement spéculatif d'une relation contractuelle? Parce que ça aussi, à mon avis, c'est un élément important. Donc, ce n'était non seulement pas une bonne décision pour parler de l'imprévision, c'était pas non plus donc une bonne décision, à mon avis, pour parler de la bonne foi, parce qu'il n'y a pas assez de réflexion qui a été faite sur les liens entre la bonne foi et le profit. C'est une décision malheureuse. Voilà, c'est une décision malheureuse pour le droit civil, c'est une décision malheureuse pour l'idée que l'on se fait du contrat et de la relation contractuelle.
Écoute, je ne sais pas si c'est une décision malheureuse, mais je suis absolument d'accord avec toi sur le fait que l'affaire était porteuse de très belles questions. Et d'ailleurs, si on regarde les mémoires des parties, il y avait une argumentation très riche sur ces questions de bonne foi, notamment. En réalité, je me demande si l'objectif de la Cour suprême dans cette décision n'était pas plutôt de fermer la porte qui avait été entrouverte par la Cour d'appel relativement à la question de l'imprévision.
Je suis tout à fait d'accord avec toi que ce que la Cour suprême a sans doute cherché à faire ici, c'était fermer la porte qui avait été entrouverte par la Cour d'appel. Et le problème, comme on le sait, c'est que la Cour d'appel créait cette ouverture par l'intermédiaire de la bonne foi. Et là, ce qu'on s'apprêtait à faire, si effectivement la Cour suprême avait suivi ce chemin, ça aurait été d'admettre des considérations de nature éminemment politique dans la prise en compte d'éléments de nature de bonne foi. Et donc, on avait ouvert considération morale que l'on cherche à restreindre depuis quelques années. Et là, on aurait ouvert ça à tous les abus, à tous les dérapages. Et effectivement, en ce sens-là, on revient encore à ça, là, je vais essayer de ne pas m'éterniser, mais la majorité dans la décision de la Cour suprême, à mon avis, a voulu éviter de mettre les pieds dans un plat trop politique, a voulu éviter donc de s'embourber dans des considérations qui étaient éminemment politiques au final par l'intermédiaire d'une notion morale trop vague. Donc, si on avait un outil juridique plus clair, mieux délimité, ça aurait été une décision qui se serait tenue bien davantage parce qu'on aurait pu avoir des balises de droit positif beaucoup plus précises. Là, tout ce qu'on avait, c'était la bonne foi. Ça aurait été extrêmement difficile, à mon avis. Donc, en ce sens-là, je suis d'accord avec la décision de ne pas accepter l'imprévision sous l'angle de la bonne foi. Ça, je suis d'accord. Mais une décision courageuse et intéressante, à mon avis, ou à tout le moins certains développements, certaines ouvertures, ça aurait été de dire, ben, il faudrait peut-être que le législateur envisage la possibilité de venir. Mais c'est pas ça. On a dit l'imprévision n'existe pas et voilà, on l'écarte et c'est fini, on passe à autre chose. Et je ne m'attendais pas à ce que la Cour suprême, justement, réintègre directement la notion d'imprévision par l'intermédiaire de cette décision-là. Parce que, comme je l'ai dit, c'était un contexte qui était trop politique, qui était beaucoup trop délicat. Mais qu'on ne l'évacue pas aussi simplement, aussi sommairement, avec des arguments que je qualifierais presque de grossiers ici, là. Et de le faire, à tout le moins, en précisant que le contexte ne se prêtait pas à ça. Ça. Ne serait-ce que ça aurait, à mon avis, beaucoup servi la cause de notre compréhension du fonctionnement du contrat aujourd'hui. Donc là, on est comme dans un gros flou. Ce qui reste, à mon avis, de cette décision de la Cour suprême, c'est l'idée que peu importe l'avantage qu'on va retirer d'une relation contractuelle, c'est du business, puis qu'en business, ben on le sait, ça joue dur, puis au plus fort la poche, puis... Si vous êtes écorché, ben vous avez juste à pas vous prêter au jeu.
On comprend que tu as certaines réserves relativement à l'admission de la théorie de l'imprévision par l'intermédiaire de la notion de bonne foi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
La porte qui était ouverte, et on y revient par la cour d'appel, et de dire qu'on pourrait le faire par l'intermédiaire de la bonne foi, c'est ni plus ni moins que casse-gueule. Parce que là, on va se trouver non seulement à intégrer quelque chose qui ressemble à l'imprévision, même sans le nommer, mais à le faire en ayant extrêmement de difficultés à établir des balises claires. Et ça, à mon avis, c'est dangereux. Quand je dis que je n'aime pas la bonne foi, ben c'est parce que justement, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Et ça peut être invoqué de part et d'autre. Et à partir de là, ben le mécanisme de l'imprévision étant par nature exceptionnel, ça me paraît un peu paradoxal de vouloir intégrer une solution qui est l'exception de l'exception, qui se doit de le rester, mais qui doit quand même exister, et le faire avec quelque chose, un outil donc qui peut être invoqué à peu près à toutes les sauces, à peu près n'importe comment. Donc ça, je n'aime pas ça du tout.
OK. Si on s'intéresse maintenant un peu au comment, lorsqu'on lit la décision de la Cour suprême, il y a un premier obstacle en quelque sorte dirimant à l'admission de la théorie de l'imprévision. On voit que le juge Gascon tire un argument assez fort, je trouve, du droit comparé lorsqu'il indique que les autres pays ont admis la théorie de l'imprévision par la voie législative. Autrement dit, selon la majorité, ce n'est pas au pouvoir judiciaire de remettre en cause le refus de la théorie de l'imprévision. Qu'est-ce que tu penses de cet argument et surtout, crois-tu que par un effort d'interprétation, les tribunaux vont pouvoir surmonter cet obstacle?
J'aimerais bien, honnêtement, pas parce que je tiens absolument à ce que l'imprévision entre en force en droit civil québécois, mais parce que ça nous obligerait justement à poser des balises sur le rôle de la bonne foi, comme je le disais tout à l'heure. Parce que là, ce que je crains, c'est que effectivement, à mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant que l'imprévision, sous une forme quelconque, donc fasse son entrée en droit civil. L'argumentaire, ou c'est limite rhétorique là, de la majorité dans la décision de la Cour suprême d'affaires de Churchill Falls, à l'effet que ce n'est pas aux tribunaux d'aller à l'encontre de la loi en la matière qui ne prévoit pas donc cette règle de l'imprévision, est un peu facile, parce que c'est éviter de parler de l'éléphant dans la pièce. Et en faisant ça, ben je pense qu'évidemment, on a voulu choisir sa bataille en disant « c'est pas ça le problème ici ». Le problème, c'est est-ce qu'on ouvre une boîte de Pandore de nature politique avec toutes les conséquences que ça va avoir, et on revient à l'idée que cette décision est extrêmement particulière. C'est délicat. Évidemment, c'est un code civil, donc on n'apporte pas des amendements tous les trois mois. Je doute que le législateur intervienne, et ça me fait un peu peur. Je pourrais dire que sous la pression populaire, parce qu'il va y en avoir, là, je crains que le législateur, à la va-vite comme ça, là, sur le coin de la table, décide d'ajouter un article, je sais pas quel, point 1, pour venir dire, ben voilà, ou ajouter un alinéa, ce qui sera encore pire, pour venir dire, ben voilà, l'imprévision est admissible. Ça aussi, c'est une mauvaise idée, à mon avis. Il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on en discute. Ça va peut-être se faire par l'intermédiaire de décision. Mais effectivement, il faudrait qu'il y ait des précédents. Donc, je pense qu'il va falloir que ça se fasse petit à petit. Je voudrais pas que ça se fasse par la bande. Je pense qu'on a tout à perdre, parce que ça se fasse par la bande. Et la bande ici étant évidemment cette notion de bonne foi, ou d'équité contractuelle, ou de justice contractuelle, ou de moralité contractuelle. Je voudrais qu'on appelle les choses par leur nom. Ça s'impose. Mais encore une fois, ça sera d'établir, ça s'impose peut-être dans certaines circonstances, mais qui sont exceptionnelles. Et là, on a besoin de balises claires.
Autre question dans cette perspective, comment on peut envisager ça concrètement? Est-ce qu'il faut remettre ça entre les mains des parties, ou alors, à notre extrême, permettre l'intervention du juge dans le contrat?
Ah non, il faut éviter l'intervention directe du juge, là, parce que là encore, il va y avoir des abus. Pour moi, le contrat, à la base, correspond à une idée de collaboration initiale, plus ou moins importante, selon la nature, bon, selon la relation entre les parties, etc., etc., mais ça va de soi, là. Et effectivement, j'ai cette idée de close the hardship en tête. À mon avis, honnêtement, et là je me répète, et je reviens à cette idée que aujourd'hui le contrat ne peut plus être une simple rencontre de volonté initiale. Le contexte social, économique, juridique est beaucoup trop complexe. C'est un peu un cliché de le dire, mais c'est vrai en matière contractuelle. Et ne serait-ce que la rapidité à laquelle on contracte, bon, etc. Notre volonté de, il s'agit pas de prendre plus notre temps. C'est pas vrai, on prendra pas plus notre temps. Donc, considérant que les contrats vont se conclure de plus en plus rapidement, à mon avis, implique qu'en amont ou en aval, là, disons que l'entente contractuelle part d'en haut et que en aval, donc plus bas, on prévoit qu'il y aura des ajustements à faire. Donc ça me paraît inévitable. Peut-être que ça va être la pratique qui va l'imposer. C'est peut-être ce qui va arriver aussi, là, parce que là, les gens ne veulent pas tous aller perdre leur temps. Les entreprises ont déjà perdu beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr qu'on va aller perdre leur temps devant les tribunaux. Et l'équivalent des clauses de hardship en droit du commerce international va de plus en plus, ça a commencé déjà, s'implanter dans les contrats d'abord commerciaux, de plus en moins grande ampleur. Ça va donner une espèce de clause type et ça va entrer dans les us et coutumes de l'univers contractuel. Et peut-être que là, à ce moment-là, les tribunaux vont intervenir plus facilement parce qu'ils vont avoir déjà des balises qui vont être fixées par la pratique et vont pouvoir venir délimiter ce qui paraît acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc, ça pourrait être la voie aussi. Mais je me répète, ça ne doit pas être fait par le biais de la bonne foi. Ça, je n'en démords pas.
Pour terminer, André, dernière question. Au cours de cet entretien, tu as évoqué beaucoup de notions classiques du droit des contrats, dont celle de bonne foi, évidemment. Et en t'écoutant, finalement, je me demande si cette question de l'imprévision n'est pas le catalyseur d'un questionnement plus général sur la notion même de contrat.
Le contrat, dans le contexte actuel, n'a plus grand-chose à voir avec cette idée de marchandage humain où les gens se rencontrent et discutent. On est très, 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 très loin de ça. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, mais je pense qu'on est là et qu'on utilise effectivement, non seulement on utilise le terme contrat, mais la justification première, et on l'enseigne à titre de professeur, dans une optique qui ne correspond plus à la réalité. Donc, le fait de dire à nos étudiants qu'un contrat, c'est une rencontre de volonté libre et éclairée, comme on le disait, alors que même dans des contrats extrêmement complexes où on fait affaire avec les meilleurs juristes, les meilleures équipes de juristes, il semble évident que personne n'est en mesure d'avoir une volonté parfaitement éclairée de ce que tout ça implique. C'est assez fascinant et peut-être que c'est ce que l'imprévision nous permet de faire d'ailleurs. Ça nous oblige à porter un regard sur ce qui est devenu la relation contractuelle. C'est pas tant l'imprévision qui est importante, c'est le positionnement que ça nous oblige à prendre.
Donc après Churchill France, on aurait pu croire que la question d'imprévision était réglée, mais c'est une des questions que la pandémie risque de faire ressurgir peut-être plus tôt que prévu.
Ouais, on le voit avec la pandémie, en réalité, c'est un continent de questions, de belles questions, j'ai envie de dire, juridiques qui vont se poser dans les prochains mois et dans les prochaines années. De mon côté, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point on touche aux limites de ce que le droit des obligations dans ces situations exceptionnelles peut faire. Et toi, t'en penses quoi?
En fait, oui, je suis assez d'accord. Il me semble que la pandémie apporte un autre éclairage sur le rôle du droit des contrats. Par exemple, si on revient à cette idée du principe de la force obligatoire. On a vu qu'en droit civil, on a tendance à croire que le droit est essentiel à la sécurité et à la prévisibilité des contrats. Donc, on dit si les gens respectent leurs engagements, c'est au moins en partie parce que le droit et les tribunaux sont là pour les forcer à le faire. Donc, ils imposent des sanctions. Et la présence de ces sanctions potentielles-là incite vraiment les gens à respecter leurs contrats. Par contre, on voit bien qu'avec la pandémie, que l'inverse peut être vrai aussi, c'est-à-dire que, quelque part, le droit des contrats suppose l'existence d'un monde prévisible pour fonctionner. Le droit va être efficace comme sanction seulement quand tout roule relativement normalement. Si on est dans une période d'instabilité et que tout le monde a la difficulté à remplir ses obligations, bien, c'est clair qu'on ne gagne pas grand-chose à poursuivre nos co-contractants, puis le droit ne sert peut-être pas à grand-chose, finalement.
Oui, tu as tout à fait raison. Finalement, ces situations assez difficiles, ce qu'elles nous révèlent, c'est toute la fragilité de nos constructions théoriques. J'aimerais quand même être un tout petit peu optimiste pour terminer. Et puis, je me souviens qu'au moment de la réforme de 1994, on a beaucoup parlé de l'avènement d'une nouvelle moralité contractuelle au Québec. Dans les années qui ont suivi, la doctrine a été assez critique autour de cette notion. Ben, je crois qu'en réalité, on peut souhaiter que cette pandémie soit l'occasion de véritablement faire vivre une nouvelle moralité contractuelle. J'espère que les acteurs du droit, les juges, les praticiens et même la doctrine vont réussir à en faire sortir quelque chose de bon pour notre droit des contrats.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que plusieurs notions vont être appelées à être discutées, à être clarifiées par les tribunaux au cours des prochaines années avec les litiges qui vont sûrement découler des situations auxquelles on assiste actuellement. Donc, c'est clairement à suivre.
Et voilà, c'est ce qui termine ce troisième et dernier épisode de Contrat tout à Nantes. Un grand merci à Maître Élise Thériault, à Maître Céline Ruault, aux professeurs David Robitaille, Gabriel Berthold et André Bélanger.
Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute.
Au revoir.